Chapitre 59. C'est quand l'arbre se couche que l'on mesure sa grandeur. J'ai rangé le journal d'Irène Fayolle dans le tiroir de ma table de nuit. Je lis les passages qui me concernent au hasard, jamais dans l'ordre chronologique. Elle est venue épisodiquement de 2009 à 2015 dans mon cimetière pour se recueillir sur la tombe de Gabriel. Des années pendant lesquelles elle a pris des notes sur la météo, Gabriel, les tombes d'à côté, les pots de fleurs et moi. Julien a glissé des papiers colorés aux pages où sa mère parle de la dame du cimetière dans son journal, comme des fleurs posées sur les lignes où elle parle de moi. Cela m'a tout de suite rappelé la lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. 3 janvier 2010. Aujourd'hui, j'ai remarqué que la dame du cimetière avait pleuré. 6 octobre 2009. En quittant le cimetière, j'ai croisé la dame qui s'en occupe. Elle souriait. Elle était accompagnée d'un fossoyeur, d'un chien et de 2 chats. 6 juillet 2013. La dame du cimetière nettoie souvent les tombes. Elle n'est pas obligée. 28 septembre 2015. J'ai croisé la dame du cimetière. Elle m'a souri, mais elle semblait penser à autre chose. 7 avril 2011. Je viens d'apprendre que le mari de la dame du cimetière a disparu. 3 septembre 2012. La maison de la dame du cimetière était fermée à clé et les volets clos. J'ai demandé pourquoi à un fossoyeur. Il m'a dit que le jour de Noël et le 3 septembre, la gardienne ne voulait voir personne. Ce sont les seuls jours de l'année où elle se fait remplacer en dehors des vacances d'été. 7 juin 2014. Il paraît que la dame du cimetière consigne les discours qui sont faits pour les défunts dans des cahiers. 10 août 2013. En achetant des fleurs, j'ai appris que la dame du cimetière était partie en vacances à Marseille. Je l'ai peut-être croisée. Quand je sors des lignes qui me concernent, quand j'ouvre le journal aux endroits où il n'y a pas les marque-pages de couleurs glissées par Julien, j'ai le sentiment d'entrer dans la chambre d'Irène et de fouiller sous son matelas. Comme son fils lorsqu'il s'est mis à rechercher Philippe Toussaint. Moi, c'est Gabriel Prudent que je recherche quand je sors des clous. Il y a certains mots que je ne comprends pas. Irène écrivait aussi mal que les médecins le nom des médicaments sur les ordonnances. Elle faisait de minuscules pattes de mouche avec son stylo bille. Après leur nuit d'amour dans la chambre bleue, Gabriel Prudent et Irène Fayolle n'ont pas quitté l'hôtel ensemble. Ils devaient rendre la chambre à midi. Gabriel a appelé la réception pour dire qu'il resterait encore 24 heures. Il a caressé Irène du bout des doigts en murmurant entre deux taffes « Il faut que je dessoule de tout cet alcool et surtout, il faut que je dessoule de vous avant de sortir d'ici. » Elle l'a mal pris. C'était comme s'il lui disait « Il faut que je me débarrasse de vous avant de sortir d'ici. » Elle s'est levée, a pris une douche et s'est rhabillée. Depuis qu'elle était mariée, elle n'avait jamais découché. Quand elle est ressortie de la salle de bain, Gabriel s'était endormi. Dans le cendrier, une fumée crasse émanait d'un mégot mal écrasé. Elle a ouvert le minibar pour trouver une bouteille d'eau. Gabriel a rouvert les yeux et l'a regardé boire à la bouteille. Elle avait déjà enfilé son manteau. Restez encore un peu. Elle a porté le revers de sa main à sa bouche pour s'essuyer. Il a adoré ce geste. Sa peau, son regard, ses cheveux ramenés dans un élastique noir. Je suis partie depuis hier matin. J'étais censée livrer des fleurs à Aix et revenir tout de suite après. Je suis sûre que mon mari a déjà signalé ma disparition. Ça ne vous tente pas de disparaître? Non. Venez vivre avec moi. Je suis mariée et j'ai un fils. Divorcez et emmenez votre fils avec vous. Je m'entends plutôt bien avec les enfants. On ne divorce pas comme ça d'un coup de baguette magique. Avec vous, on dirait que tout est simple. Mais tout est simple. Je ne veux pas aller à l'enterrement de mon mari. Vous avez abandonné votre femme et elle en est morte. Vous devenez désagréable. Elle a cherché son sac à main, a vérifié que ses clés de voiture étaient à l'intérieur. Non, réaliste. On n'abandonne pas les gens comme ça. Si c'est facile pour vous de tout plaquer et reconstruire ailleurs, sans se soucier des autres, de leur chagrin, eh bien, tant mieux. Chacun sa vie. Non, la vie des autres, ça compte aussi. Je sais, je passe la mienne à la défendre dans les tribunaux. C'est celle des autres que vous défendez. Celle de gens que vous ne connaissez pas. Pas la vôtre. Pas celle des vôtres. C'est presque facile. On en est déjà aux reproches. Après une seule nuit d'amour. On va peut-être un petit peu trop vite, là. Il n'y a que la vérité qui blesse. Il a levé la voix. J'exècre la vérité. Ça n'existe pas, la vérité. C'est comme Dieu. C'est une invention des hommes. Elle a haussé les épaules d'un air de dire ce qu'elle a dit. Ça ne m'étonne pas. Il l'a regardée tristement. Déjà, je ne vous étonne plus. Elle a acquiescé, lui a fait un léger sourire et a claqué la porte sans dire au revoir. Elle a descendu les escaliers, 3 étages, chercher son utilitaire. Elle ne se souvenait pas où elle l'avait garé la veille. En le cherchant dans les rues adjacentes à l'hôtel, devant les vitrines où les dernières soldes d'hiver étaient annoncées, elle a failli remonter dans la chambre, se jeter dans ses bras. Au moment où elle allait rebrousser chemin, elle a vu son véhicule garé au fond d'une impasse, à cheval sur un trottoir, un peu n'importe comment. Au fond d'une impasse, n'importe comment. C'était n'importe quoi. Il fallait rentrer, retrouver Paul et Julien. Dans l'utilitaire, il y avait une odeur de tabac froid. Elle a ouvert les fenêtres en grand, malgré l'hiver. Elle a roulé jusqu'à Marseille. Elle n'est pas passée par la roseraie, elle est rentrée directement chez elle. Paul l'attendait. Quand elle a ouvert la porte, il a presque crié « C'est toi ?» Il était fou d'inquiétude, mais n'avait pas signalé sa disparition. Il savait que sa femme pourrait disparaître du jour au lendemain. Il l'avait toujours su. Trop belle, trop taiseuse, trop secrète. Elle lui a demandé pardon. Lui a dit qu'elle avait fait une rencontre inattendue au cimetière. Un veuf, abandonné par sa famille. Enfin bref, une drôle d'histoire. Elle avait dû s'occuper de tout. Comment ça, tout ? Tout. Paul ne posait jamais de questions. Pour lui, les questions appartenaient au passé. Paul vivait au présent. La prochaine fois, appelle-moi. Tu as mangé ? Non. Où est Julien ? À l'école. Tu as faim ? Oui. Je vais faire des pâtes. D'accord. Elle a souri, est allée dans la cuisine, a sorti une casserole, a fait couler de l'eau dedans, l'a mise à chauffer en y versant du sel et des herbes. Elle a repensé aux pâtes qu'elle avait mangées la veille avec Gabriel, à l'amour qu'ils avaient fait. Paul est entré dans la cuisine, s'est collé dans son dos, l'a embrassée dans la nuque. Elle a fermé les yeux.